Introductions aux lettres, une épître, en guise de préface par George Whitehead, 1698. George Whitehead est né à Sunrig, dans le Westmoreland, en 1636. Il fut convaincu astérisque des principes quakers alors qu'il n'avait que 14 ans, et fit partie d'un remarquable groupe des vaillants 60 qui, à l'âge de 14 ans, vers l'an 1650, partirent du nord de l'Angleterre pour une mission évangélique à l'origine de la Société des Amis. Il était un polémiste habile, et il est consigné qu'à une réunion qu'il tint dans le Norfolk. Presque toute l'assemblée fut convaincue par la puissante puissance de Dieu, au travers de son témoignage et de sa prière vivant et pénétrant. George Whitehead consacra beaucoup de temps et d'énergie à plaider la cause des opprimés. En 1662, accompagné d'Edward Burrough et d'autres amis, il comparut à la barre de la Chambre des communes dans l'espoir d'empêcher l'adoption de l'acte d'uniformité. Ils n'y parvinrent pas, mais la délégation fit une profonde impression à la Chambre. Plus tard, George Whitehead joua le rôle principal dans l'obtention d'un « pardon général de Charlie », par lequel plus de 490 personnes furent libérées de prison, parmi lesquelles John Bunyan, un ennemi des Quakers. Il réussit aussi à obtenir un allègement de nombreuses difficultés sous les règnes de Jacques Yee et de Guillaume et Marie. Bien que né sous le règne de Charles I être un des 49 R, George Whitehead vécut assez longtemps pour voir George I être un des 49 R couronné roi, et participa à une délégation d'amis qui se rendit auprès du roi et du prince de Galles afin de présenter une adresse de bienvenue de la part de la société. Il mourut en 1723 et fut enterré aux côtés de George Fox dans le cimetière Quake de Bunhill Fields. Astérisque, être convaincu signifie être devenu certain de la voie requise pour le salut, et non recevoir le salut lui-même. Toutes ces personnes nouvellement convaincues avaient auparavant été de pieux lecteurs de la Bible, professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été baptisées, assistaient à des offices sectaires, etc. Mais elles étaient encore toutes captives du péché, et savaient qu'il devait exister un moyen de devenir libre, ne serait-ce que du désir de péché. Lorsqu'elles entendirent proclamer la voie pour devenir pure, pour être affranchies du péché, leur cœur rendit témoignage à cette vérité. Elles s'unirent donc à d'autres qui cherchaient à être délivrées du péché, en attendant dans un humble silence pour entendre le maître intérieur pour lui obéir, et pour recevoir sa grâce transformatrice qui leur apprenait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre alors dans leur monde d'une manière sobre, juste et pieuse, à être rachetés de toute iniquité et purifiés, et ensuite à... Ce processus de la conviction à la pureté exigeait d'elles qu'elles continuent, au fil du temps, à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Parce qu'elles tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu œuvrant dans leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, elles tremblaient ou frémissaient, ainsi furent-elles connues sous le nom de Quakers. Il a souvent exercé son ministère aux côtés de George Fox, ainsi il le connaissait bien et en parle avec autorité. Son œuvre majeure, le journal de son étonnante vie, est sur ce site. À tous les amis de la vérité et à tous les lecteurs bien disposés, salutations dans l'amour cher et tendre de mon Père Céleste, qu'il a, par son cher Fils et son Esprit béni, abondamment répandu dans bien des cœurs en ce glorieux jour de l'Évangile, gloire à son digne nom et à son excellente puissance à jamais. Chers amis, j'ai à cœur de recommander la lecture attentive et l'examen de la collection qui suit à tous ceux qui désirent sincèrement la promotion du royaume du Christ et la prospérité de son Église et de Sion, dans un amour, une union et un ordre véritable, en est par Christ Jésus lui-même, qui en est la tête et le fondement. Et afin qu'aucun de vous ne juge la lecture de ces épîtres lassantes ou fastidieuses, parce que les mêmes mots et les mêmes choses, dans plusieurs d'entre elles, peuvent sembler fréquemment répétées, il y a de nombreuses vérités évangéliques et une variété de matières bonnes et salutaires, ainsi que des diversités d'épîtres, contenant beaucoup de conseils chrétiens à de nombreux états et conditions variées d'âmes éclairées et vivifiées, qui cheminent et soupirent vers Dieu, de sorte que les répétitions fréquentes mêlées, des mêmes vérités nécessaires peuvent être d'autres. Quoi qu'il en soit, le lecteur modéré et de bonne foi ne s'en offensera pas, cela étant fréquent dans les saintes Écritures que les mêmes vérités de l'Évangile soient souvent répétées, car beaucoup de personnes lentes et oublieuses ont besoin qu'on leur rappelle souvent des choses d'une si grande importance. Les épîtres de l'auteur et les matières d'intérêt le plus général sont ici rassemblées, de manière à éviter, autant que possible, la prolixité et les répétitions inutiles. La simplicité et la sobriété du style de l'auteur ne doivent pas être méprisées, lui qui était davantage dans la vie et la substance que dans la sagesse des mots ou l'éloquence du discours. Et le Seigneur ayant voulu, en son temps, faire grand usage de lui et accomplir de grandes choses par lui, pour son nom et pour sa postérité, il en demeure encore des nuées de témoins, attestant cette puissance divine et cette sagesse cachée de Dieu, dans le mystère du Christ qui l'accompagnait, le soutenait et lui relevait la tête au travers de nombreux grands combats d'affliction et d'épreuves. J'avoue que je n'ai pas lu ni entendu toutes les épîtres de la collection qui suit, mais beaucoup d'entre elles, que je sais être très opportunes, profondes et nécessaires, et j'ai donc raison de le croire aussi des autres que je n'ai pas lues. Mais par notre longue et fréquente conversation, connaissance et intimité jointes à ses témoignages vivants et ravivés, à son souci pieux et à son zèle pour l'honneur et la prospérité de la vérité, j'ai profondément lu et connu l'auteur, son amour sans feinte, son innocence et son intégrité dans la vérité vivante bénie. Son souci chrétien, entre bien d'autres choses relatives aux églises du Christ, à leur union, leur bon ordre et leur discipline, était grandement que rien ne puisse donner occasion de scandale, afin que le ministère ne soit pas blâmé, sachant bien quelles épreuves et quelles preuves accompagnaient les ministres du Christ et le ministère en ces derniers jours en quelque mesure, comme au temps des chrétiens primitifs, à savoir qu'il s'est montré lui avec beaucoup d'autres en son temps et eux-mêmes comme des ministres du Christ avec beaucoup de patience. Comme il est détaillé dans 2 Corinthiens, chapitre 6, qui éprouve les ministres de Dieu, ce vieil serviteur eut une part profonde à ses preuves, et la vraie racine de la chose était en lui, bien au-delà de ses expressions. Et bien que de nombreuses fausses prédictions, prophéties et menaces cruelles aient été proférées par des persécuteurs et des esprits envieux contre lui, et contre nous ses amis et frères qu'il aimait sans fin, et contre sa et notre sainte profession, voient témoignages comme si en très peu de temps, tout devait se réduire à néant et être dévasté. Pourtant, elles ont toutes été déjouées et se sont révélées fausses, et son témoignage et son œuvre de vie chrétienne ont été davantage manifestées comme étant de Dieu, et non des hommes, ni de la volonté. Car la vérité, qui est la plus forte de toutes, a toujours prévalu et doit prévaloir. Et bien que la mémoire de ce frère défunt et fidèle serviteur de Jésus-Christ soit encore grandement jalousée et très grossièrement diffamée par certains adversaires implacables et apostats endurcis, qui n'ont pu obtenir leur fin mauvaise et leur dessein destructeur contre lui de son vivant, pourtant sa mémoire est véritablement précieuse pour des milliers, qui craignent vraiment Dieu et aiment sa vérité, et qui ont un vrai sentiment intérieur qu'une telle puissance divine et une telle providence l'accompagnaient dans son innocent témoignage chrétien. Dans nombre des épîtres qui suivent, il mentionne souvent la semence, la vie, la puissance de Dieu et semblable, par quoi il n'entend rien d'autre que ce dont les saintes Écritures rendent témoignage au sujet du Christ, lesquels, nous le savons, il aimait et estimait véritablement, et dont il faisait souvent lecture, ayant une excellente mémoire et un sens spirituel que le Seigneur lui avait donné. Par la sainte semence pure, il entendait et déclarait le Christ, la semence promise, en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et comme le Christ est la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de foi, il est cette semence immortelle et incorruptible, de laquelle tous les véritables croyants spirituels et enfants de la lumière sont engendrés pour Dieu et renaissent, et cette semence ou parole de vie éternelle demeure en celui qui est né de Dieu et ne pèche pas à cause d'elle. 1 Jean 3, 9. Et comme génération de Dieu, enfants de son royaume et de la promesse, ils sont appelés la bonne semence et comptés pour la semence étant nés de cette semence incorruptible ou parole de vie qui demeure à jamais 1 Pierre 1, 23, et étant cette semence bénie et cette sainte génération qu'il avait été prédit que le Christ verrait, et pour laquelle il a souffert en son âme. Isaïe chapitre 53. Ce notre ami défunt et serviteur de Jésus-Christ a véritablement rendu témoignage de lui à tous égards, tant comme venu dans la chair et dans l'esprit, que comme le Christ était et notre seul médiateur et avocat, et comme il était et Dieu au-dessus de tout, béni éternellement, lui qu'il aimait et honorait si chèrement qu'il offrait souvent sa vie et souffrait profondément pour lui, et cela dans un amour cher et constant pour sa semence, afin qu'une sainte génération soit suscitée, fortifiée et accrue sur la terre parmi les enfants des hommes. Et sa connaissance et son ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, étant selon l'Esprit, en vie en puissance, n'impliquaient en aucune façon une diminution de la dignité ou de la gloire du Christ, ni quelque défaut de foi ou d'amour pour le Christ, comme il est venu et a souffert dans la chair pour le genre humain, ainsi que certains adversaires l'ont injustement déformé et calomnié, car il estimait hautement les souffrances, la mort, la résurrection et la gloire du Christ, et il témoignait puissamment de leur vertu, de leur puissance. Et comme nous n'avons aucune raison de douter qu'avec cet homme innocent et bon, vivre, c'était Christ, ainsi, mourir était un gain, et dans l'un et l'autre il a glorifié Dieu. Christ Jésus étant notre rocher spirituel, notre fondement et notre tête, il nous est véritablement précieux, à nous et à tous les vrais croyants, en tous états et conditions, tant de son humiliation que de sa gloire et de sa domination, sa grande grâce et sa bonté apparaissant dans ses précieux dons ministériels accordés par lui, lorsqu'il est monté en haut pour son ministère et son Église. Et il est très remarquable que, bien que pour exprimer la condition humble et l'apparition du Christ dans le monde, il soit parfois appelé dans la Sainte Écriture la semence, son nom est aussi appelé admirable conseiller, le Dieu puissant, le Prince de paix éternelle, sur l'épaule duquel repose le gouvernement, et l'accroissement de son gouvernement et de sa paix n'aura point de fin, Isaïe chapitre 9. Et il convient, tout à fait à la condition basse, humble et souffrante du Christ de se servir d'instrument qui lui ressemble le plus en humilité et en modestie d'esprit, bien qu'il soit faible et méprisé aux yeux et dans l'estime du monde. Dieu se plaît à choisir des choses basses, insignifiantes et faibles, et des instruments méprisables aux yeux des grands et des orgueilleux de ce monde, pour confondre la sagesse du monde, selon 1 Corinthiens chapitre 1. Il choisit de pauvres bergers pour divulguer cette grande vérité évangélique de la naissance du Christ, et certaines femmes pour prêcher cette vérité de l'évangile de sa résurrection, Luc 2 et 24, et cela tant par le témoignage des anges que par leur vue du Christ lui-même. La vérité ne doit pas être rejetée à cause de tels instruments que Dieu, dans sa sagesse, se plaît à employer dans son œuvre, ni le jour des petites choses méprisées. De petits commencements de bonnes choses jaillissent de grandes choses, de glorieux accomplissements et des perfections. Gloire, honneur et domination à notre Dieu très gracieux, et à l'agneau sur son trône, au siècle des siècles. Maintenant, chers et bien-aimés amis, vivez tous dans l'amour et la paix, suivant la vraie foi, l'exemple pacifique et bon des fidèles en Christ, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Votre véritable ami et frère en Christ Jésus, George Whitehead, Londres, 1698. Introduction aux épîtres de George Fox, un témoignage sur la manière dont le Seigneur envoya d'abord George Fox, en l'an 1643. Lorsque le Seigneur m'envoya pour la première fois, en l'an 1643, je fus envoyé comme un agneau innocent et jeune d'âge parmi des hommes dans la nature de des loups, des chiens, des ours, des lions et des tigres, dans le monde que le diable avait rendu semblable à un désert, dont on ne trouvait alors aucune juste voie pour en sortir. Et je fus envoyé pour détourner les gens des ténèbres vers la lumière, par laquelle le Christ, le second Adam, les a éclairés, afin qu'ils puissent voir le Christ leur voie vers Dieu avec l'Esprit de Dieu qu'il répand sur toute chair, afin qu'avec lui il ait l'intelligence de connaître les choses de Dieu et de le connaître, lui et son Fils Jésus-Christ, ce qui est la vie éternelle, ainsi qu'ils puissent adorer et servir le Dieu vivant, leur faiseur et créateur, qui prend soin de tous, qui est Seigneur de tous, et qu'avec la lumière. Et lorsque beaucoup commencèrent à être tournés vers la lumière, qui est la vie en Christ, et vers l'Esprit de Dieu, qui leur donnait l'intelligence, et qu'ils avaient trouvé le sentier des justes, la lumière brillante, alors les loups, chiens, dragons, ours, lions, tigres, bêtes sauvages et oiseaux de proie se mirent à rugir et à pousser des cris contre les agneaux, les brebis, les colombes et les enfants du Christ, et furent prêts à les dévorer eux et moi, et à nous mettre en pièces. Mais le bras et la puissance du Seigneur me préservèrent, bien que bien des fois ma vie fût en danger, et très souvent je fusse jeté dans des cachots et des prisons, et traîné devant des magistrats. Mais toutes choses concouraient au bien, et plus on m'enfermait dans des prisons extérieures, plus des gens sortaient de leurs prisons spirituelles et intérieures par la prédication de l'Évangile. Mais les prêtres et les professeurs étaient dans une si grande fureur, et ils excitaient une telle rage chez les gens grossiers et profanes, que je pouvais à peine marcher dans les rues ou aller sur les grands chemins, tant ils étaient souvent prêts à me faire du mal. Mais le Christ, qui a toute puissance au ciel et sur la terre, les retenait et les limitait tellement par sa puissance que ma vie fut préservée, bien des fois pourtant je faillis être tué. Oh, quel fardeau et quel labeur j'ai porté, souvent ma vie était accablée sous les esprits des professeurs et des enseignants sans vie, et des profanes. Et de plus, les troubles ensuite avec les rétrogrades, les apostases et les faux frères, qui étaient comme au temps de Judas, trahissant la vérité et la semence fidèle et choisie de Dieu, et faisant médire de la voie de la vérité. Mais le Seigneur les a frappés, dévastés et confondus, de sorte qu'aucun ne demeura longtemps, car le Seigneur les détruisit ou les réduisit à rien, et sa vérité fleurit, et son peuple en elle, à la louange de Dieu, qui est le vengeur de ses élus. George Fox concernant la première diffusion de la vérité, et comment beaucoup furent emprisonnés, etc. Et la vérité germa d'abord pour nous, afin d'être un peuple pour le Seigneur, dans le Leicestershire en 1644, et dans le Warwickshire en 1645, et dans le Nottinghamshire en 1646, et dans le Derbyshire en 1647, et dans les pays voisins en 1648, 1649 et 1650, et dans le Yorkshire en 1651, et dans le Lancashire et le Westmoreland en 1652, et dans le Cumberland et l'évêché, et le Northumberland en 1000. Et en 1655, beaucoup passèrent au-delà des mers, où la vérité germa aussi. Et en 1656, la vérité éclata en Amérique, et en beaucoup d'autres lieux. Et la vérité a tenu bon face à toutes les cruautés et souffrances infligées aux amis par le long parlement, spoliation de biens, emprisonnement et mort, ainsi que tous les reproches, mensonges et calomnies, puis par Oliver Cromwell, protecteur, et tous les actes qu'Olivier et ses parlements ont promulgués, ainsi que son fils Richard après lui, et le comité de sûreté. Ensuite, elle a résisté et a duré malgré tous les actes et proclamations depuis 1660, lorsque le roi revint. Et la vérité du Seigneur demeure au-dessus de tout, et sa semence règne, sa vérité se répand grandement jusqu'à cette année 1676. Les amis n'ont jamais craint leurs actes, ni les prisons, ni les geôles, ni les maisons de correction, ni les bannissements, ni la spoliation de biens, non, pas même la vie. Et il n'y eut jamais de persécution qui survint sans que nous voyions qu'elle était pour le bien, et nous la tenions pour bonne, comme venant de Dieu. Il n'y eut jamais de prison où je fus, ni de souffrance, qui ne servit toujours à faire sortir des multitudes supplémentaires de prison. Car ceux qui emprisonnaient la vérité et étouffaient l'esprit en eux-mêmes voulaient l'emprisonner et l'étouffer hors d'eux. De sorte qu'il y eut un temps où ils étaient si nombreux en prison que cela devint un proverbe, on trouvait à peine la vérité ailleurs que dans les geôles. Et après le retour du roi, beaucoup d'amis souffrirent beaucoup, parce qu'ils ne voulaient pas boire à la santé du roi, ni dire « Dieu bénisse le roi », de sorte que souvent les amis furent en danger de mort de la part de personnes grossières, prêtes à les transpercer de leurs épées pour avoir refusé, jusqu'à ce que le roi publie une proclamation contre le fait de boire aux santés. Car nous étions et sommes opposés à toute pratique de boire aux santés et aux excès, tant avant sa venue qu'après, et nous désirons le bien du roi, et que les bénédictions de Dieu viennent sur lui, sur tous ses sujets, et sur tous les peuples de la surface de la terre. Et nous désirions que les gens ne boivent pas à la santé du roi, mais qu'ils lui laissent sa santé, ainsi qu'à tous les autres, et qu'ils ne boivent que pour leur propre santé et nécessité. Car cette manière de boire aux santé, et jusqu'à l'excès, n'était ni pour la santé du roi, ni pour la leur, ni pour celle d'aucun autre. Cet excès engendrait souvent des querelles, et le fait de se détruire les uns les autres, car ils détruisaient la création et s'entre-détruisaient. Et cela n'était ni pour la richesse, ni pour la santé, ni pour l'honneur du roi, mais pouvait l'attrister de voir les créatures détruites ainsi que ses sujets. Ainsi la puissance du Seigneur nous donna la domination sur cela aussi, et sur toutes nos autres souffrances. Mais hélas, le nombre des souffrants au jour du Commonwealth, au jour du Protecteur et depuis. Mais surtout ceux qui furent traînés devant leurs tribunaux pour ne pas payer la dîme, et pour ne pas prêter serment dans les juries, et pour ne pas ôter leur chapeau, et pour aller aux réunions les premiers jours, sous prétexte de violer le sabbat, et à d'autres réunions en semaine, eux qui étaient maltraités tant dans les réunions que sur les grands chemins. Oh, combien grandes furent les souffrances que nous endurâmes alors pour ces raisons! Car parfois ils poussaient les amis par troupeaux dans les maisons de prison, comme des enclos pour animaux, et les y retenaient les premiers jours, puis ils leur prenaient leurs chevaux et les gardaient pour une prétendue violation de leur sabbat. Pourtant eux-mêmes allaient en carrosse et sur leurs chevaux gras à leurs églises, et punissaient les autres. Et beaucoup d'amis furent chassés de leurs maisons, terres et tenures coutumières parce qu'ils ne pouvaient jurer, et tandis qu'ils se rendaient aux réunions, ils furent lapidés dans les rues et cruellement maltraités d'autre manière. Et beaucoup furent condamnés à de lourdes amendes et restèrent longtemps en prison pour ne pas ôter leur chapeau. Mais les amis ne pouvaient jamais les payer, bien qu'on les gardât en prison jusqu'à ce qu'on ait assouvi sa propre volonté sur eux, et enfin on les relâchait, après les avoir gardés un an ou davantage en prison. Beaucoup d'amis furent extrêmement dépouillés de leurs biens et de leurs avoirs dans les petits tribunaux pour la dîme, jusqu'à ce que nous obtenions une interdiction et une suspension, demure de la cour du banc du roi, qui retira alors le jugement de telles affaires de leurs petits tribunaux, afin qu'ils puissent les poursuivre devant les cours de Londres. Mon désir est que le Seigneur ouvre leur intelligence, si telle est sa volonté, pour les chasser aussi de ces tribunaux-là. J'ai publié beaucoup de livres contre la dîme, et sur le fait que le sacerdoce avait été changé, le sacerdoce qui la percevait, et des livres montrant comment le Christ envoya ses 12 et ensuite 70 disciples, et leur dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Ainsi tous ceux qui transgressent et n'obéissent pas à la doctrine et au commandement du Christ en cela, nous ne pouvons les recevoir. Et beaucoup ont souffert pour ne pas prêter serment, tant avant qu'après le retour du roi, parce qu'ils ne pouvaient jurer, en obéissance au commandement du Christ et des apôtres, qui interdisaient tout serment. Les dîmes étaient offertes au temps de la loi, mais tout doit être offert au temps de l'Évangile pour l'amour du Christ, car il n'y avait ni dîmes ni serment avant la chute, ainsi il n'y en aura plus dans le rétablissement par le Christ. Et bien que le serment fût au temps de la loi, toutefois notre oui doit être oui, et notre non doit être non au temps de l'Évangile. Je fus poussé à publier plusieurs livres contre le serment, afin que notre oui et notre non puissent être acceptés à la place d'un serment, et si nous rompions cela, nous subirions la même peine que ceux qui rompaient leur serment. Et en Jamaïque, le gouverneur accorda cette disposition, et l'Assemblée jamaïcaine aussi, et elle est également accordée en certains autres endroits. Plusieurs membres du Parlement en Angleterre ont reconnu le caractère raisonnable de cette disposition. Car le vrai serment de Dieu n'avait pour but que de lier les gens à jurer par le Seigneur, et à dire et faire la vérité, depuis la chute de l'homme et de la femme, au temps de la loi, et non avant la chute. Et c'est ce serment que le Christ est venu accomplir et mettre fin, et il a dit « Ne jurez point du tout ». Et je dis, le Christ accomplit et met fin à ce serment que les hommes devaient rendre au Seigneur, lui qui accomplit le serment de Dieu, que Dieu a juré par lui-même, et accomplit le serment, et il établit oui, oui, et non, non, à la place des serments. À ce sujet, moi et mes amis avons écrit longuement dans nos livres, Et les magistrats, après quelque temps, lorsqu'ils virent notre fidélité dans le oui et le non, ce qui était modéré, tant avant qu'après le retour du roi, plaçaient des amis dans des charges sans serment. Mais ceux qui étaient cruels et envieux infligeaient des amendes aux amis pour en tirer de l'argent, bien que les amis ne puissent leur en payer aucun. Ainsi la puissance du Seigneur nous a portés à travers tout, et au-dessus de tout, à sa gloire et à sa louange éternelle. Car la puissance de Dieu, qui existait avant celle du diable, a été notre et notre mur et notre gardien, et le conservateur de ses plans et de sa vigne, qui n'ont pas eu l'épée ni le bâton du magistrat pour les aider, et n'ont jamais mis leur confiance dans le bras de la chair. Et ils sont allés, sans la bourse de Judas ni l'épée et le bâton du magistrat, prêcher la parole de vie, qui était au commencement, avant qu'ils ne fussent, laquelle parole réconcilie avec Dieu. Et des milliers ont reçu la parole de réconciliation, et sont nés de nouveau de la semence immortelle par la parole de Dieu, et se nourrissent du lait de la parole, qui vit, demeure et subsiste à jamais. Et beaucoup ont souffert jusqu'à la mort pour leur témoignage, tant en Angleterre qu'au-delà des mers, tant avant qu'après le retour du roi. Ce que vous pouvez voir ci-après, cela fut remis au roi et aux deux chambres du Parlement, un récit bref, clair et véridique des souffrances récentes et tristes du peuple de Dieu, par dérision appelé Quakers, pour avoir adoré et exercé une bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. En raison de quoi 89 ont souffert jusqu'à la mort, dont 32 sont morts avant l'entrée du roi en Angleterre, et 57 depuis, par dure détention et cruel traitement. 43 sont morts dans la cité de Londres et à Southwark, depuis que l'acte a été fait contre les réunions, etc., vers 1661. Ils ont ainsi souffert, et un compte rendu plus particulier en fut donné, avec les noms de ceux qui souffrirent au roi et au Parlement, vers 1663. Et bien que beaucoup de lois aient été conçues contre nous, aucune d'elles ne pouvait jamais, à juste titre, nous atteindre, et elles ne nous concernaient pas réellement, bien qu'on les exécutât injustement contre nous, et ils savaient que nous n'étions pas le peuple justement incriminable, et certains ont été amenés à l'avouer. Et toutes ces lois déjà faites, ainsi que le serment pour lequel ils nous emprisonnaient, parce qu'en obéissance au commandement de Jésus-Christ, nous ne pouvions jurer en aucune manière, n'avaient jamais été à l'origine destinées contre nous. Et pourtant nous avons souffert de ces divers pouvoirs et de leurs lois, bien qu'elles ne nous concernassent pas, par spoliation de biens et emprisonnement, jusqu'à la mort même. Et le gouverneur du château de Douvres, quand le roi lui demanda s'il avait dispersé toutes les réunions des sectaires, répondit qu'il l'avait fait, mais les Quakers, le diable lui-même ne le pouvait. Car s'il les emprisonnait et les dispersait, ils se réunissaient de nouveau, et s'il devait les battre, les assommer, ou en tuer quelques-uns, c'était tout un, ils se réunissaient et ne résistaient pas de nouveau. Ainsi la puissance du Seigneur les soutenait et les gardait au-dessus de leurs persécuteurs, et les faisait justifier notre patience et notre nature d'agneau. C'était vers 1671, et depuis le retour du roi, trois actes ont été faits contre nous par le roi et le Parlement outre les proclamations, par lesquelles beaucoup ont souffert l'emprisonnement et le bannissement, et beaucoup jusqu'à la mort. Et pourtant, malgré tous ces actes et proclamations, et le bannissement, et les persécutions, et les souffrances, les amis fidèles sont aussi frais que jamais dans la puissance du Seigneur, et vaillants pour son nom et sa vérité. Et il y eut quelques faibles, quand le roi revint, qui jurèrent et prêtèrent les serments, mais ensuite, après l'avoir fait, ils furent si profondément troublés d'avoir désobéi au commandement du Christ et de l'apôtre, qu'ils allèrent vers les magistrats, se condamnèrent eux-mêmes, et s'offrirent à aller en prison. Ainsi le Seigneur, dans sa puissance éternelle, a été le soutien et l'appui de son peuple. Et lorsque le glorieux évangile et la vérité furent répandus dans la nation, et qu'ils reçurent la parole de vie, alors d'abord les réunions trimestrielles et quelques réunions mensuelles furent établies à travers toute la nation. Puis ensuite, à mesure que la vérité se répandait toujours davantage, les réunions mensuelles d'hommes, en 1667 et 1668. Et alors aussi, certaines réunions de femmes furent mises en place, et plus tard, les réunions de femmes à travers la nation et d'autres nations furent exhortées et mises en place et établies à travers les nations. Car on me fit demander auprès de beaucoup de malades, et une fois on me fit demander à Whitechapel, vers la troisième heure du matin, pour une femme qui était mourante et son enfant, et les gens pleuraient autour d'elle. Et après un moment, je fus poussé au nom et dans la puissance de Christ Jésus à parler à la femme, et elle et son enfant furent relevés. Et elle se leva, à la stupéfaction des gens, lorsqu'ils entrèrent le matin, et son enfant aussi fut guéri. Et lorsque j'arrivai à la maison de G. Robert, vers 8 heures du matin, Sarah Blackberry entra pour se plaindre auprès de moi des pauvres, et du grand nombre d'amis pauvres dans le besoin, et le Seigneur m'avait montré ce que je devais faire, dans sa puissance et sa sagesse éternelle. Ainsi je lui parlai, pour qu'environ 60 femmes viennent me rencontrer vers la première heure de l'après-midi, à l'enseigne du home, dans la maison d'un ami. Et elles le firent en conséquence, des femmes sensibles à la vérité du Seigneur et craignant Dieu. Et ce que le Seigneur m'avait ouvert, je le leur déclarai, qu'elles tiennent une réunion une fois par semaine, chaque second jour, afin de voir et d'examiner la nécessité de tous les amis pauvres, qui étaient malades et faibles, et dans le besoin, ou veuves et orphelins dans la ville et les faubourgs. Et ainsi elles bénirent le Seigneur pour la sagesse de Dieu, qui avait établi une telle réunion dans sa puissance parmi elles, car elles virent que tous ceux qui étaient héritiers de la puissance de Dieu devaient prendre possession de la puissance de Dieu, de l'Évangile et de son ordre, qui était avant que le diable fût. Et cela les amena à la pratique de la religion pure, à visiter les malades, à secourir les orphelins et les veuves, et à veiller à ce que rien ne manque parmi eux, et qu'en visitant les malades dans la puissance et la parole du Seigneur, par cela elles auraient la sagesse du Seigneur et de sa création, et saurait administrer ses créatures, et par la même puissance guérir et fortifier avec les choses extérieures et sans elles. Ce dont elles ont fait l'expérience comme prospère jusqu'à ce jour, et de grandes choses ont été accomplies dans leur réunion par la puissance du Seigneur, et cela a été très honorable aux yeux de tous les fidèles, oui, et digne d'éloge aussi aux yeux du monde. Et ensuite, ces mêmes réunions de femmes furent établies en divers endroits de la nation, et au-delà des mers, dans la puissance du Seigneur, qui était avant que le diable fût, dans laquelle puissance du Seigneur ni secte ni apostasie ne peuvent entrer, mais seulement la paix et l'unité. Et la puissance du Seigneur, l'Évangile, est l'autorité de toutes les réunions d'hommes et de femmes, et tous les héritiers de la puissance, l'Évangile, tant les hommes que les femmes, doivent prendre possession de leur héritage dans la puissance de Dieu, qui est au-dessus du diable. Ainsi en elles, rien ne peut s'interposer entre eux et le Seigneur Dieu. Et lors de l'établissement des réunions d'hommes dans l'Évangile, la puissance de Dieu, je leur fis voir comment, au temps de la première conversion parmi les chrétiens primitifs, il y avait une réunion d'hommes composée d'hommes fidèles, remplis du Saint-Esprit, et cela devait veiller, dans la puissance et la sagesse du Seigneur, à ce que rien ne manque. Car depuis que les chrétiens avaient rejeté le temple, le magasin et les prêtres des Juifs, où l'on secourait les veuves, les étrangers et les orphelins, ils avaient établi une réunion d'hommes dans la puissance de Dieu et dans le Saint-Esprit, et ils avaient aussi des diacones, afin de veiller à ce que les veuves, les orphelins et les étrangers soient secourus, et à ce que rien ne manque parmi eux. Or, bien que cette pratique ait été perdue depuis les jours des apôtres, parce que les hommes se sont éloignés de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit dans lesquels étaient les apôtres, et c'est pourquoi les rues et les campagnes sont si pleines de veuves, d'étrangers et de mendiants, et si pleines de besoins, faute du sens du bon esprit et de la puissance qui ouvrait les cœurs, comme chez les apôtres et les chrétiens primitifs. Mais l'Évangile, éternel étant de nouveau prêché par ce même Saint-Esprit que celui dans lequel étaient les apôtres, et reçu du ciel comme le reçurent, et des milliers ayant de nouveau reçu cet Évangile, des réunions d'hommes sont établies, comme au jour des apôtres dans la puissance de Dieu et dans le Saint-Esprit. Et des réunions de femmes, comme des mères, afin qu'elles puissent être des enseignantes de bonnes choses, et ainsi veiller à ce que rien ne manque parmi eux, et ainsi faire du bien à tous, mais surtout à la maison de la foi. Et maintenant, la puissance de Dieu est l'autorité de nos réunions d'hommes et de femmes, et de toutes nos autres réunions, cette puissance de Dieu étant avant l'apostasie d'avec les apôtres, et avant la chute et le diable, et étant au-dessus de tout, et tous doivent en prendre possession, et en elles faire le service et les affaires de Dieu. Ainsi ces réunions sont pour les convertis et les élus, avant la fondation du monde, et pour ceux qui sont héritiers de la puissance et la possèdent, et ce qu'ils font et accomplissent dans l'Esprit et la puissance de Dieu, ils le font dans ce qui n'aura jamais de fin, à la gloire de Dieu à jamais. Amen. George Fox Top Begin l'été.